Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Nicolas Voller et Damien Canivet.
Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un comédien, s'il besoin de le dire, mondialement connu désormais, qui a participé à une des séries les plus mythiques des dernières années, N'ayons pas peur des mots. Dans 10%, il incarnait un agent artistique ambitieux, parfois un peu froid, intéressé par le profil, mais vous l'avez également aperçu sur les planches et au cinéma. Et cette semaine, il va vous proposer d'enfiler les moufles, les polaires, les pantalons imperméables, les bonnets, bref, tout ce qu'il vous faut pour survivre au froid, car cette fiction neigeuse mais jamais brumeuse en plein cœur des Alpes arrive sur France 2. Bonjour Thibaut de Montalembert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Piste noire, c'est le titre de la série de France 2. Vous glissez dans la peau de Loïc Servoz, un major de la gendarmerie, qui va faire équipe avec une autre enquêtrice, qui est campée par Constance Labbé. Déjà, au regard du titre, est-ce que c'est le genre de série qui sent bon la raclette, le génépi, ou est-ce que c'est plutôt canon au pistolet?
Plutôt pistolet.
Ouais, c'est ça, quand même.
Pistolet, ouais.
Pas de pause raclette dedans?
Non, pas off, oui.
Oh, ouais,
dans la coulisse, oui. Mais en plus, bon, le réalisateur qui est Fred Grivois et qui est canadien a appris son métier de réalisateur aux États-Unis et au Canada, et il a une façon de filmer qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans le service public. C'est dans les cadres, les choix des lumières, etc. Il y a un petit truc entre guillemets à l'américaine.
Qu'on voit, effectivement.
Mais qu'on sent.
Ouais. Voilà. On s'en rend compte dans les
images. Ça donne une espèce de dynamisme, de choses qui est bien. Ouais.
Et c'est incroyablement bien filmé, effectivement. La première séquence, d'ailleurs, c'est un skieur. Ça démarre, qui s'élance en haut d'une piste. Est-ce qu'on a une chance de vous voir, Thibaut de Montalembert, dévaler les pistes, ou est-ce que non? Vous êtes dans le boulot, dans l'enquête, et vous skiez pas?
Non.
Vous pouvez skier pendant le tournage ou pas?
Non.
Non plus? Au cas où il y a un accident?
Si jamais.
Les assurances.
Je ne skie pas d'une façon générale, mais si je m'y étais mis, c'était très dangereux. Quoi.
Surtout pour la suite du tournage, en tout cas. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants, évidemment, Thibaut. On va parler de cette série, de vos projets. Bien entendu, ce sera tout de suite après les news médias de Damien Canivez. Bonjour Damien.
Bonjour Nicolas, bonjour Thibault.
Bonjour.
On commence tout de suite ces infos médias avec la fermeture de RT France.
Oui, la chaîne d'information en continu financée par Moscou a annoncé ce samedi 21 janvier qu'elle allait définitivement baisser le rideau en raison d'une nouvelle salve de sanctions européennes. Alors ces mesures arrêtées en décembre dernier dans le cadre du conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie prévoient notamment le gel des avoirs de ANOTV Novosti, qui est la maison mère qui détient les droits en totalité de RT France. Les comptes bancaires de la chaîne branche française de Russia Today étant désormais gelés, il est donc impossible pour cette chaîne de poursuivre son activité, au grand désespoir de Xenia Federova, qui est la présidente et la directrice de RT France. Elle affirme aussi dans un communiqué que 123 salariés risquent bien de ne pas percevoir le salaire qui leur était dû courant janvier. Pour rappel, RT France a été lancée en 2017 et a souvent été considérée comme un organe de propagande du Kremlin à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine. On le rappelle, la chaîne a été suspendue de diffusion à la suite d'une décision de la Commission européenne, au même titre que les autres branches de Russia Today en Europe.
Et on se souvient que l'animateur, Frédéric Taddeï,
oui,
avait quitté Russia Today, enfin RT évidemment, pour lequel il travaillait. Vous êtes comédien, mais vous êtes aussi un citoyen, un papa, j'imagine. Quel regard vous portez sur cette période difficile où on a une guerre qui est aux portes de l'Europe? Et est-ce que ça, c'est quelque chose auquel on pense tous les jours,
Thibault? Ah oui, maintenant, je pense qu'on y pense tous les jours, tous.
On le voit se répercuter de différentes manières, évidemment, surtout économiques.
On nous empêche bien, d'une certaine manière, de ne pas y penser aussi.
Ouais.
Et qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à tous ces gens qui sont en train de crever de froid, en Ukraine notamment. Enfin, je dirais, on a bénéficié d'un temps de paix tellement long que ça nous paraît,
incroyable.
Oui, incroyable, mais bon, c'est malheureusement l'histoire aussi. C'est-à-dire que la roue tourne et voilà, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, de changer. J'espère pour le mieux, mais pour l'instant, on est vraiment dans le trou, quoi. Enfin, je pense qu'on va descendre encore un peu plus bas, même.
Ah, encore un peu plus bas, vous croyez? Est-ce que le fait de geler tous les avoirs russes, vous voyez, la chaîne russe s'arrête parce qu'évidemment, on a coupé tous les financements.
Oui.
Pour vous, c'est des sanctions qui sont logiques à prendre contre la Russie?
Oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr.
Damien, on continue ces infos médias avec Pierre Lescure, ouais, qui a glissé un petit tacle bien senti à Claire Chazal.
Petit bien senti, vous avez tout résumé, Nicolas. Le fondateur de Canal+ a accordé ce week-end un entretien à nos confrères du Parisien à l'occasion du lancement de son nouveau magazine baptisé Beau Geste. Cette émission a été diffusée pour la première fois ce dimanche 22 janvier à 23h05. Pierre Lescure succède donc sur cette case à Claire Chazal, hein, qui a incarné jusque-là Passage des Arts. Et l'ancienne présentatrice des JT de TF1 n'a pas vraiment digéré l'arrêt de son émission. Elle a même confié à Télérama récemment qu'elle ressentait un grand sentiment d'injustice et que c'était très violent pour elle. Pierre Lescure, dans son interview au Parisien, a regretté une campagne un peu excessive de la part de Claire Chazal. Voici ce qu'il a déclaré. « J'ai trouvé un peu gonflé que ça devienne une grande cause nationale à ses yeux, alors qu'elle n'a ni dit bonjour ni merci à Laurent Goumard qu'elle avait elle-même remplacé à l'époque. »
Oui, effectivement. vous, en tant qu'humoriste, en tant que comédien, oui, quelle serait pour vous la récompense suprême, Thibault? Si demain, je vous donne le choix entre un Molière, un César, un Oscar, une panne d'interprétation à Cannes. Bon, s'il n'y en avait qu'un à choisir, ce serait quoi pour vous le graal absolu? Dur?
L'Oscar.
Ah, Oscar, bah oui, quand même.
D'accord. Maintenant que vous êtes un comédien international, vous pouvez rêver d'un Oscar.
Ouais, non.
Non, alors beaucoup d'acteurs nous disent Cannes aussi, hein, la panne à Cannes, qui peut être importante.
Oui, mais bien sûr. Mais dans le mythe, c'est l'Oscar.
Ouais.
La fameuse statuette. Enfin, il y a un truc mythologique avec ça.
Ouais, absolument.
Oui.
Jean Dujardin, le dernier Français à l'avoir obtenu, ouais, on s'en souvient tous. On termine, Damien, ces infos médias avec le chiffre du jour, c'est le 7.
Et oui, c'est en kilos le poids que Dominique Besnéard a perdu après son séjour à l'hôpital. Ouais. C'était en décembre dernier, dans une publication sur Facebook, le papa de la série 10%, que vous connaissez un petit peu, je crois, Thibaut de Montalembert.
Et qui va bien.
Il indique qu'il se rétablit en ce moment même, après le malaise cardiaque dont il a été victime. C'était juste après la cérémonie Miss France, le 18 décembre dernier.
Vous l'avez, Dominique, récemment au téléphone?
Oui, ça va.
Bon, quelle relation vous avez avec lui? Quelle relation a été tissée?
Dominique, je le connais depuis que je suis né, je dirais. Enfin, en tout cas, depuis que je suis né à ce métier. Quand j'avais 19 ans, voilà, je l'ai croisé comme casting directeur avant qu'il soit agent. C'est une espèce de figure tutélaire. Tout le monde le connaît. Enfin, c'est le papa du cinéma français, je dirais, d'une certaine manière. Et voilà. Et puis c'est un homme formidable. C'est un homme de cœur. Voilà. C'est un homme de cœur et qui a fait tous ses choix dans la vie en fonction non pas de ce qu'il pouvait espérer tirer d'une situation, mais de ce qu'il ressentait.
Et c'est comme ça qu'il a découvert notamment des acteurs extraordinaires. Il vous a beaucoup coaché en tant qu'agent, quand vous incarniez Mathias Barneville dans 10%.
Non, pas du tout. Parce que, d'abord, parce qu'il y avait quand même Cédric Clapiche aux commandes dans la première saison. Et que, Cédric sait très très bien diriger les acteurs. Donc,
absolument. Non, mais je veux dire des tuyaux, quoi que ce soit, ou tout ce que Fanny Hérault avait mis écrit était là.
Il a beaucoup, je crois, nourri.
Mis de lui,
oui,
bien sûr.
Et bien sûr, parce qu'il y a des tas d'histoires qui ont été filmées, etc., qui viennent de son fond, de son fond, je dirais pas de commerce, mais enfin
de sa
carrière.
Voilà. Normal.
Donc oui, il a beaucoup alimenté la machine à écrire.
Et vous savez de qui Mathias s'était inspiré ou pas?
Oui.
Ouais. C'était qui? C'est un mélange.
Ouais.
Oui. Il y a Bertrand de Labbé, patron d'Armédien.
C'est ça, il y a un mélange entre Bertrand de Labbé, que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais croisé, et plein de gens m'ont dit « c'est incroyable, ça lui ressemble », tout, alors que moi, personnellement, je n'ai jamais croisé.
Ouais.
Et puis, il y avait un petit peu aussi de Samuelson, je sais.
François Samuelson, absolument. Ouais. Piste noire, je l'ai dit, Thibault, une fiction dans laquelle vous endossez le rôle d'un gendarme qui va devoir se pencher évidemment sur un meurtre, une dépouille qui a été découverte dans une caravane en feu. Comment l'agent que vous êtes va-t-il appréhender cette affaire?
L'agent.
Parce que l'agent de gendarmerie.
Oui, c'est
l'agent de gendarmerie. Le gendarme.
Oui, l'agent.
C'est un agent défenseur.
Le gendarme. Non, il n'est pas agent de police.
Il est major de gendarmerie. C'est un type, visiblement, il vient du pays parce que Cerveau, c'est un nom de là-bas, c'est un nom de Savoie.
Les Alpes, ouais.
Il s'appelle Loïc quand même, donc il y a peut-être un mélange entre la Bretagne et la Savoie.
Allez, Savoie.
Mais voilà, c'est quelqu'un qui est un peu en fin de route, qui est un peu en fin de carrière, comme ça, un peu plan-plan. Et puis, il y a cette histoire qui débarque. C'est quelqu'un c'est un homme un peu brisé. Pour moi...
Il est cabossé, on dirait.
Oui,
il lui arrive.
Et je l'ai travaillé dans ce sens-là. C'est vrai que j'avais comme modèle, je pensais beaucoup à Wallander, qui est ce flic
L'inspecteur Wallander,
voilà,
le Suédois.
Le Suédois. Ce genre de personnage, comme ça, un peu... on ne sait pas s'il est veuf ou divorcé. Il a eu un drame dans sa vie. Son fils a été brûlé vif. C'est un ancien alcoolique qui est toujours aux Alcooliques Anonymes. C'est un mec un peu anarcho, comme ça, avec qui il a beaucoup de sympathie, notamment pour tous les écolos qui n'arrêtent pas de faire des actions pour bloquer la construction de ouais. cette espèce de station pour riches ouais. qui est en train de se faire. Voilà, et puis on lui envoie dans les pattes une jeune gendarmette qui est sur cette
incarnée
enquête.
Par Constance Labbé, ouais.
Incarnée par Constance Labbé, qui est formidable, et qui est sur cette affaire, est son supérieur. Donc, lui.
Ça passe moins bien.
Voilà, c'est ça. C'est pas tellement la question du fait qu'elle soit plus jeune et qu'elle soit son supérieur. C'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un frottement de deux générations très différentes. Voilà, il y a quelque chose qui se frotte comme ça. Au départ,
c'est des personnages paillissants, en tout cas. C'est ça, c'est ce qui est intéressant.
Voilà. Mmh. Et puis, le fait que ça soit une jeune femme et un espèce de vieux nounours comme ça. Et alors, au début, ils se regardent un peu comme chien et chat. Et puis, petit à petit, il y a du respect et de l'amitié.
Et qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée d'accepter ce rôle ?
Il y a deux choses, d'abord. Parce que le scénario, très franchement, c'est un scénario qu'on connaît, qui est assez lambda, je dirais, assez classique. Ouais. Voilà. Il y a eu deux choses. Il y a eu la rencontre avec le réalisateur, avec Fred Grivois. Parce que tout de suite, j'ai vu qu'il avait envie d'emmener ça dans une certaine direction. Et moi, je voulais faire quelque chose qu'on n'avait pas vu encore, que moi, je n'avais pas expérimenté et qu'on n'avait pas vu, et faire une vraie composition et un travail. Et je lui ai dit notamment, je veux me raser la tête. Il m'a dit, très bien, j'adore. J'adore, mais alors, faut pas le dire. Faut pas le dire.
Et vous êtes resté d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais vu Thibaut de Montalembert avec les cheveux aussi courts.
Non,
ça fait
non.
une vraie révolution capillaire quand même. Ça vous a surpris de vous voir comme ça,
J'ai
Thibaut.
Adoré, bah, j'ai ouais. adoré. Évidemment, ça change, c'est bien, c'est agréable. C'est agréable.
Mais pour quelle raison on vous a imposé de vous raser la tête ?
Ah
non, c'est vous
qui avez... C'est complètement moi.
Mais pourquoi, en fait ?
Bon, les gendarmes n'ont pas les cheveux très longs.
Oui, vous voulez. D'abord, les gendarmes n'ont pas tes cheveux très longs. Et ensuite, personnellement, parce que je viens peut-être du théâtre, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est la composition qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Il y a des tas d'acteurs qui sont eux-mêmes d'un film à l'autre, ils ne changent jamais, c'est toujours les mêmes. Et c'est très bien, je veux dire. Il y a beaucoup de stars qui sont comme ça. Moi, j'aime beaucoup... Je serais plutôt tendance Daniel Day-Lewis.
Ah oui.
Toute proportion gardée, en talent, parce que je n'ai pas le sien.
Des plus grands acteurs du siècle, voilà, disons-le clairement. Voilà,
ouais. Travailler un personnage, c'est faire un voyage. Ouais. Pour moi, en tout cas. Donc, c'est aller vers quelque chose, des choses que je ne connais pas, que je vais expérimenter. Ouais. J'avais envie d'avoir cette tête-là.
Mais c'est un personnage qui vous suit dans votre vie privée, puisque vous n'allez pas arborer une perruque dans votre vie privée. Vous gardez les cheveux courts. Est-ce que vous êtes un nouvel homme avec cette chevelure, Thibaut de Montalembert ?
Pour l'instant. Pour l'instant.
Ça tient encore, évidemment. On a parlé de Constance Labbé et du duo que vous formez. Il y a beaucoup de personnages dans cette série, mais il y en a un qui prend beaucoup de place, évidemment. C'est la montagne. Et c'est un personnage vraiment à part entière, avec cet aspect à la fois froid, angoissant. Qu'est-ce que ça vous a fait de tourner dans un tel décor ? Et est-ce que l'effet se ressent vraiment sur la fiction pour ceux qui vont la regarder ?
D'autant plus qu'on est arrivé, ça a duré 4 mois, le tournage. Bon, quand même, on est arrivé à la fin de l'automne. Mm-hmm. Il y avait encore les feuilles, etc. C'était assez doux. Et en l'espace d'une semaine, tout d'un coup, c'est devenu un autre monde. Mais ça, à toute vitesse. Hein. Ça change complètement. La neige tombe, tout se referme. Tout se referme, on a ce sentiment-là.
Silence presque.
Oui, ce silence. Fort, ouais. Et non, évidemment, la montagne est un vrai personnage. Et en plus, Fred Grivois l'a vraiment traité comme tel. C'est-à-dire qu'il l'a vraiment pris comme un personnage. Il y a eu des journées assez dures, notamment en haute montagne, où il y avait eu des techniciens qui tombaient dans les pommes tellement il faisait froid. Enfin,
ah ouais.
Ah oui, à ce point-là. En plein hiver, ouais.
Mais pour quelle raison ? Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment couverts. Parce qu'en principe, quand on fait du ski, on ne tombe pas dans les pommes non plus. Enfin, vous voyez,
non, quand vous faites du ski, mais quand vous êtes comme ça pendant 2 heures, 3 heures, le Kirchmann, par exemple.
Oui, il ne bouge pas, en fait.
Il bouge pas.
C'est compliqué.
On peut.
Et vous avez été confronté à des difficultés en raison des conditions effectivement assez exceptionnelles ?
Non, j'ai eu non. Vous savez, nous les comédiens, on est des enfants gâtés, donc
on est très protégés. Vous êtes au chaud dès que ça va. Le duo avec Constance Labbé, pour finir, comment il fonctionne ? Vous aviez déjà tourné ensemble ?
Pas du tout.
Comment ça s'est passé, l'approche ? Parce que quand on tient un film comme ça sur deux personnes, il faut qu'il y ait une alchimie qui prenne.
Écoutez, je ne sais pas, je crois qu'on s'est rencontrés, on s'est plu, et on a voilà, ça a fitté tout de suite, en fait. Ouais. Vraiment tout de suite.
C'est un match, quoi. Ouais. C'est ça. Sur Tinder, ça apparaîtrait en... C'est It's a Match.
Vous m'avez l'air d'être bien au courant, Nicolas.
C'est parce que vous m'avez tout appris, Damien, c'est pour ça.
T'en dis pas plus. Alors, c'est vrai que vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez endossé le rôle de Mathias Bardeville hein, dans la série culte 10% sur France 2. La quatrième et dernière saison a été diffusée donc, sur la chaîne, c'était en octobre 2020. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un espoir, aussi infime soit-il, que cette série revienne sur le service public?
Pas avec une cinquième saison.
C'est certain, ça. C'est
ouais, je pense que ça, c'est acté quand même.
Mais un film.
Un film. Ouais. Qui est en train de s'écrire.
Qui est écrit effectivement par Fanny Herrero, hein, oui. La créatrice de 10%.
Exactement. Et Fanny Herrero et Lison Daniel. Ouais. Lison Daniel qui a une chronique sur Inter, notamment, je crois. Ouais. Et surtout qui joue au théâtre avec moi, là, dans le 10 février. Je commence une pièce qui est l'adaptation de Un président ne devrait pas dire ça de journaliste d'Ave et L'Homme.
On voit les affiches un peu partout. Ouais.
Qu'on joue au théâtre libre.
Vous interprétez François Hollande, c'est ça?
Non, je fais une espèce de mix de Davet et de L'Homme.
Ah, d'accord, des deux journalistes du monde mixés. Ouais.
C'est Scalide El Perra qui joue le président. Mm-hmm. On ne le nomme pas, on ne sait pas, c'est le président. Il y a Hélène Babu qui fait la rédactrice en chef du journal. On ne dit pas quel journal.
Quel journal, bien sûr.
Et moi et Lison Daniel qui sommes les deux journalistes qui allons travailler avec.
Alors pour revenir juste à 10%, parce qu'évidemment vous nous avez mis un peu l'eau à la bouche, est-ce que vous avez une idée de l'histoire, de ce que ça va emprunter, de la trajectoire?
Pas du tout.
Bon, c'est en cours d'écriture.
Pas du tout.
L'équipe, la même, a priori?
Ah oui,
tout le monde repart?
Ouais. Bah oui. Ah bah tout le monde repart, je pense, oui. Ouais. Après, c'est très difficile et c'est ça le problème. C'est comment faire pour. On est quand même nombreux. Entre les agents, les assistants, etc., pour que tout le monde ait quelque chose à défendre en une heure et demie.
Ouais, dans un film.
Ou en une heure trois quarts.
Ouais, ouais. Parce que c'est assez.
Ça, c'est un challenge.
Mais vous, quoi qu'il arrive, vous ferez partie de l'aventure. On vous a déjà dit que vous ferez partie de l'intrigue.
On m'a rien dit, problème. Non, on m'a rien dit. Mais
surtout s'il y a des guests et tout, il faut faire un peu de place à tout le monde. Effectivement, ouais, c'est pas évident à
faire. C'est pas évident.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, 10% professionnellement, notamment depuis la diffusion sur Netflix? Vous m'expliquiez avant l'antenne que parfois vous êtes plus reconnu à New York qu'à Paris. C'est fou.
Effectivement, c'est mondial, quoi.
Ouais.
Donc, ça, c'est les plateformes, hein, c'est
ouais,
hallucinant.
C'est la folie. Ouais,
c'est complètement hallucinant et c'est vachement bien en même temps parce que je viens de finir une grosse série pour Apple sur Benjamin Franklin. Avec Michael Douglas, qui est un truc qui a pris 7 mois de tournage.
Ah ouais, sympa de nous donner ça comme ça. Oui, j'ai tourné avec Michael Douglas.
J'ai aussi tourné avec Sienna Miller, avec Scarlett Johansson pour un premier film de
Bon, là,
de
j'ai Christine. Commencé à être très jaloux, là.
Pour ça, j'appuie
Sienna
un peu.
Miller et Johansson,
autant Michael Douglas, bon, ok.
Ouais,
Scarlett Johansson, là, vous allez loin.
Premier film de Christine Scott Thomas qu'elle a réalisé, dans lequel elle joue, et je fais un petit caméo, comme ils disent en anglais.
Et quel rôle allez-vous endosser dans ce film pour Netflix avec, sur Benjamin Franklin?
Alors, c'est pour Apple.
Ah, c'est pour Apple.
C'est pour Apple.
Plus
et c'est, je fais Charles Gravier de Vergennes, qui était le ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, qui est devenu Premier ministre, qui était le dernier Premier ministre, je crois, juste avant la Révolution.
Et c'est un rôle assez conséquent dans cette
série? Il y a 100 personnages à peu près, c'est énorme, et je suis le quatrième.
Donc vous êtes le quatrième? Ah oui, donc vous avez un grand rôle. Et il est sympa, Michael Douglas, ou pas?
Oui, très, mais c'est surtout que c'est un type adorable d'abord, très élégant, extrêmement élégant, c'est vraiment un gentleman. Ouais. Et puis, c'est un vrai professionnel, c'est-à-dire que quand on voit des acteurs qui, en contre-champ, en France, foutent le camp ou disparaissent et ne donnent pas la réplique, lui, il donne la réplique que ça soit
là,
qu'il soit dedans ou pas dedans. Enfin,
il y a l'écoute,
un grand professionnel. C'est un vrai bonheur.
Est-ce que justement, aujourd'hui, les plateformes Thibault de Montalembert, pour vous, prennent une place absolument prépondérable? On sait qu'il y a beaucoup de choix, parfois plus qu'au cinéma, bien sûr, parfois même plus que sur la télé classique, on va dire la télé linéaire. Pour vous, maintenant, il n'y a aucune réflexion quand on vous propose un rôle, plateforme, télé, cinéma, il n'y a plus de différence pour vous?
Si, il y a des différences. Ouais. Il y a des différences, il y a toujours des différences de production, etc. C'est vrai que Apple, ils ont énormément de moyens comparé à la télévision.
En termes de qualité, vous voulez dire, c'est largement au-dessus.
C'est au-dessus. C'est pas tellement une question. Il y a l'argent, c'est certain. Et l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Mais c'est aussi, par exemple, sur Benjamin Franklin, le scriptwriter, le showrunner, a été là du premier au dernier jour. Pendant 7 mois, c'est un Américain, il était là tous les jours, et tous les jours, il améliorait le scénario, il réécrivait, etc. On n'a pas ça en France. Ouais.
Et vous en recevez énormément des propositions de l'international. Bah,
cette année, j'ai eu plus de trucs à l'international qu'en France.
Et comment vous l'expliquez ? C'est grâce à la diffusion de 10% sur Netflix ? Ça a été une grosse vitrine pour vous ?
Oui, et puis ils se sont rendus compte. J'avais fait un film pour Netflix avec Timothée Chalamet qui s'appelait The King, qui était l'adaptation d'Henri V, où j'avais un grand monologue à la fin. Je faisais le roi de France, qui était un roi fou à l'époque. Ouais. Et ils se sont rendus compte que je parlais anglais. Et à partir de ce moment-là,
vous ouvre des portes.
Bah, oui.
Ouais, après, c'est parti. Alors, il y a une autre à qui les portes se sont ouvertes, c'est votre ex-femme de série, je précise, Philippine Leroy Beaulieu, devenue la star d'Emily in Paris. Quel regard vous portez sur. Vous êtes toujours en contact avec Philippine. C'est incroyable ce qui lui arrive avec Emily in Paris aussi.
C'est génial. Je crois qu'elle, c'est un carton, absolument. Non, je ne l'ai pas eu depuis un petit moment.
Mais vous avez regardé Emily in Paris ou pas ? Vous avez jeté un petit coup d'œil ?
Je ne l'ai pas encore regardé, mais je vais y aller.
Ça va vous faire rire, hein. Beaucoup de caricatures sur Paris, mais c'est drôle à suivre. Damien, une dernière ?
Aujourd'hui, c'est quoi le graal entre obtenir un super rôle au cinéma, qui faisait rêver, c'est vrai, autrefois les acteurs, et un rôle à l'international sur une plateforme de vidéo à la demande ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plus saliver aujourd'hui un acteur qu'autrefois ?
En général, en fait, c'est toujours une histoire de projet.
C'est vraiment une histoire de projet ?
Oui, c'est une histoire de rencontre et de projet. Moi, j'aimerais bien que le cinéma français m'appelle un peu, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de télévision, mais j'aime le cinéma, c'est une autre façon de travailler aussi. Mais c'est toujours une histoire de projet, de rencontre avec un réalisateur qui a envie de travailler avec vous. Ouais. C'est toujours mieux dans ce sens-là. Et puis, tout d'un coup, une histoire qu'on a envie de raconter avec quelqu'un d'autre.
Vous savez que le cinéma français ne vous appelle pas trop. Est-ce qu'il y a toujours une connotation il fait beaucoup de télé ou de plateforme et du coup,
de moins en moins.
Il y a moins de barrières comme ça.
En plus, on voit bien, par exemple, là, je vais faire une autre série avec
Suvaro Marcy, qui est un des plus grands acteurs de cinéma, de cinéma et qui va faire Lupin sur Netflix.
Exactement. Ouais. Là, je vais faire une série avec cette actrice qui joue la servante écarlate.
Je vois très bien. Qui jouait dans Mad Men.
Et qui a été découverte par les plateformes, elle.
Ouais,
vraiment.
Absolument.
Avec Mad Men, effectivement, etc. Ouais.
Et qui jouait dans Invisible Man hier. Voilà. Vous restez avec nous, Thibault. C'est notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, c'est notre rubrique finale, comme dans un mariage, il y a le bon, il y a le moins bon. Bref, Thibaut de Montalembert, c'est l'heure de faire un petit peu un bilan. Si je vous demande aujourd'hui, à date, le meilleur souvenir de votre carrière d'acteur, ou le plus grand souvenir que vous ayez. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous vient tout de suite en tête, un moment extraordinaire, fantastique ?
Il y en a plusieurs. Il y a eu effectivement, quand je suis rentré à la Comédie Française, quand j'ai eu le coup de téléphone de l'administrateur, un matin, monsieur l'administrateur de la Comédie Française voudrait vous rencontrer. Je tombais des nues. Ouais. Et je savais ce que ça voulait dire. Mais venant de chez Chéreau, qui était vraiment un autre monde, etc. Ça a été un truc. Beaucoup plus récemment, c'est une rencontre avec un rôle qui était Lola, dans le film de Ruben Alves, Miss, qui a été un film, un film magnifique, mais qui a été tué dans l'œuf parce qu'il est sorti une semaine avant le premier confinement. Comme pas mal de films. Où je faisais un travesti qui faisait le tapin au bois de Boulogne. Adorez ça.
Vous faites des rôles assez variés quand même, il faut reconnaître.
Oui, voilà.
Et votre pire souvenir maintenant ?
Le pire souvenir ? J'ai pas de pire souvenir, franchement.
Vous n'avez pas un
échec ? Est-ce qu'il y a une grande honte, quelque chose, un moment de solitude comme ça, un truc, un grand moment de gêne, un truc un peu embarrassant comme ça ?
Non.
Non.
Très franchement.
Je ne vais pas en parler.
Non, très franchement, je cherche. Non, il y aurait prescription.
Bien sûr.
Non, mais franchement, pas. Je me suis toujours débrouillé pour faire. Il fallait que j'aille de ma vie, donc je ne pouvais pas toujours choisir. Mais je me suis toujours débrouillé pour faire des choses dans lesquelles je me reconnaissais, en tout cas.
Quelle est la déclaration de fan la plus folle que vous ayez jamais reçue ? Est-ce qu'il y a eu comme ça du harcèlement ? Une femme, un homme, quelque chose un peu particulier ?
Non, il n'y a pas eu de harcèlement. Il y a eu, c'est vrai, quelque chose qui était assez émouvant. Quelqu'un qui m'a dit qu'il m'avait vu 20 ans plus tôt et que ça avait complètement bouleversé sa vie et qu'il était devenu il ou elle. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est un homme ou une femme.
Bouleversé sa vie dans le sens de...
Dans le sens qu'il avait tout d'un coup découvert quelque chose et que ça l'avait ouvert à un autre monde.
En vous voyant jouer, c'est ça, tout simplement.
C'est toujours assez émouvant d'avoir ce genre de retour.
Vous avez parlé des plateformes de vidéo à la demande où vous avez beaucoup de projets. Est-ce qu'on vous reverra également dans une fiction à la télévision au cours des prochains mois ?
Alors, à part celle-ci, pour l'instant, non.
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 Pas de tournage prévu à l'horizon?
Non. Non, non, non.
Il y a beaucoup de choses. Il faut se préserver pour 10% qui va arriver sans doute dans pas très
longtemps. Oui, oui, c'est ça.
Ouais. Ouais, c'est ça. On attend quand même les
Il y a pas mal de choses qui vont sortir, donc on va voir aussi ce que ça va. Il y a aussi un film que j'ai fait avec Alban Lenoir, là, et qui s'appelle Aka, qui va sortir aussi sur Netflix, dans la lignée des deux films qu'ils ont fait là, sur Netflix et qui ont cartonné Une balle
Absolument.
Perdue.
Ouais. Très bon acteur et metteur en scène également, Alban Lenoir. Merci beaucoup Thibault d'être passé
nous voir.
Merci à tous de votre fidélité. Bonne journée.